Radio Okapi.
Le journal avec Jacques-Yves Molima.
International CPI est en pleine campagne de réparation des préjudices subis par la population en Ituri. Vous suivrez dans ce journal certains habitants d'André qui expriment leur gratitude. Et puis faire un état des lieux de la situation qui prévaut au front dans les territoires de Rutshuru notamment, où les foyers, les forces loyalistes luttent contre la coalition armée rwandaise M23. Les commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale ont auditionné hier mercredi Gilbert Kabanda, ministre de la Défense. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Fernand Mbakilay, directeur ad intérim du Centre d'études et de formation populaire. Il nous parlera du forum que sa structure a organisé à Mbujimayi au Kassai Oriental sur le droit des communautés liées à l'exploitation minière. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale a redonné un peu de sourire aux lèvres à de nombreuses personnes affectées par les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Certains avaient eu de membres amputés et d'autres violés pendant les atrocités des groupes armés au début des années 2000 en Ituri et dans les deux Kivu. À ces jours, grâce au projet de réparation, elles sont réinsérées dans la communauté et exercent des activités génératrices de revenus pour la survie de leurs familles. Certains entre elles ont exprimé mercredi leur gratitude au cours d'une journée porte ouverte ou aux bailleurs représentés par les ambassadeurs des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal qui sont en mission à Bounia. Isaac Remoyope.
Parmi les victimes de la guerre en Ituri qui ont bénéficié des projets de réparation, il y a une fille qui avait marché sur une mine antipersonnelle vers la localité de Nyankunda 2001. Ses deux jambes avaient été amputées et toutes ses ambitions, notamment celle de poursuivre ses études et de devenir cadre de ces pays anéantis. Orpheline des pères et des mères, elle a souffert de solitude, de traumatisme et de rejet. Mais grâce au fonds au profit des victimes, elle a été acheminée à Bukavu pour des soins et aujourd'hui elle marche avec des prothèses, ce qui lui a permis de reprendre les études et de décrocher son diplôme d'État. Actuellement, elle s'en sort grâce au petit commerce. Elle plaide pour la restauration d'une paix durable à Ituri pour éviter qu'elle soit encore victime de la guerre qui continue à détruire la vie des milliers de gens à l'est de la RDC. Grâce au fonds au profit des victimes de la CPI, plusieurs femmes violées à Ituri au nord et Sud Kivu pendant la guerre ont bénéficié des soins et des opérations chirurgicales pour la réparation des fistules. Certaines ont appris des métiers professionnels ou exercent des activités génératrices de revenus grâce aux projets financés par les fonds au profit des victimes. Plus de 305 000 enfants ont été éduqués à la culture de la paix depuis 2008 dans ces trois provinces. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, sensibiliser les opérateurs économiques tant congolais qu'étrangers sur la mise en œuvre des zones économiques spéciales, mais plus précisément sur le cadre juridique qui réglemente ces zones. C'est l'objectif de l'atelier d'échange organisé ce mercredi 2 novembre ici à Kinshasa par le ministre de l'Industrie. Cette rencontre a réuni des investisseurs congolais et étrangers. Julien Paluku Kaungia a également rassuré toutes les administrations congolaises que les exonérations dans les zones économiques spéciales ne constituent en aucun cas une perte dans les trésors publics. Julien Paluku Kaungia l'a dit à Paul Matendo.
Nous avons tenu à organiser cet atelier de sensibilisation pour d'abord parler du cadre juridique qui organise ce régime des zones économiques spéciales. C'est une question qui a déjà été prévue par une loi depuis 2014. On a décliné tous les instruments juridiques qui ont été mis en place, partant de la loi, en passant par la mise en place de l'agence des zones économiques spéciales, jusqu'au décret qui fixe les avantages qui sont accordés à ceux qui travaillent dans les zones économiques spéciales. Voilà pourquoi cette journée de sensibilisation est très importante pour que les administrations congolaises, qu'il s'agisse de la direction des douanes, de la direction des impôts, de la DGRAD, de toutes les administrations qui collectent les impôts et les taxes non fiscales, et puissent savoir quel est le niveau de leur implication pour que nous arrivions à réussir. Parce que des fois, lorsqu'une entreprise vient s'installer et qu'elle accède à des exonérations, il y en a qui pensent que non, c'est une perte pour l'État et souvent il y a des barrières.
Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense s'est expliqué hier mercredi devant les commissions Défense et Sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'audition de Gilbert Kabanda visait à faire un état des lieux de la situation qui prévaut au front dans les territoires de Rutshuru notamment, où les forces loyalistes luttent contre la coalition armée rwandaise M23. La représentation nationale a posé toutes les questions sur notamment les difficultés des FRDC et le mécanisme de mobilisation de la population pour faire face à la guerre. Michel Kifindangoy.
Après plusieurs heures d'audition, le ministre de la Défense dit avoir répondu à un devoir républicain de redevabilité. Gilbert Kabanda.
Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est. Le gouvernement fera tout pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R.
De son côté, le président de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale rassure que le Parlement restera impliqué dans la lutte contre l'insécurité. Bertin Mubonzi.
La population de l'Est, ça fait très longtemps qu'elle souffre. Et je pense que le gouvernement doit comprendre que nous sommes vraiment là pour suivre. Et au moment opportun, il y aura des recommandations qui iront dans le sens de permettre à notre armée non seulement de gagner cette guerre, mais de nous garantir une paix et une sécurité pendant longtemps.
Occasion pour le général Baramoto, président de la commission défense et sécurité du Sénat, de lancer un appel à la population à suivre les orientations du gouvernement et du commandement de l'armée qui déploie les efforts inlassables pour la restauration de la paix et la quiétude à travers tous les territoires nationaux.
Pendant ces temps sur le terrain nord Kivu, un calme précaire règne sur toute l'étendue de la zone occupée depuis 6 jours maintenant par les rebelles du M23 dans la chefferie de Bouicha, c'est dans le territoire de Rutshuru. Selon nos sources dans la zone, quelques tirs ont été entendus ce jeudi dans la matinée autour de la cité de Kiwanja, mais nos contacts ont moins de précisions sur la raison. Ces sources notent cependant plusieurs incertitudes au sujet de la stabilité dans la zone. Le point avec Kelly Yoka.
En ce 6e jour d'occupation par les rebelles du M23 du chef-lieu et des agglomérations importantes du territoire de Rutshuru, la situation reste incertaine. Les pesanteurs sont encore nombreuses, indiquent nos témoins sur place. Les rebelles maintiennent leur position le long de la nationale numéro 2 entre Mabenga, 20 km au nord de Kiwanja, jusqu'à Rugari, au sud du territoire de Rutshuru, soit à environ 40 km au nord de la ville de Goma. Toutefois, précise d'autres sources, les rebelles ne se sont pas encore déployés dans tout le groupement de Binza, nord-ouest de Rutshuru, où leur position avancée serait toujours entre Kwenda et Kiseguru sur l'axe Nyamilima-Ishasha. Même chose dans le groupement de Busanza, où ils contrôlent jusqu'à Kitagoma. Ces sources estiment que la résistance des groupes armés locaux dans cette zone bloquerait leur progression, notamment vers Nyamilima-Ishasha. Les habitants vivant dans cette zone occupée par les rebelles déplorent d'autre part cette accalmie qui, selon eux, donne plus de temps aux rebelles à s'organiser, se renforcer et même imposer leur administration parallèle dans le territoire de Rutshuru.
Et puis s'attaquer au personnel ou au bien de la MONUSCO ainsi qu'aux partenaires du gouvernement en cette période de crise sécuritaire au Nord Kivu reviendrait à faire le jeu de l'ennemi. Cet appel est lancé par la Coordination Nationale des Jeunes Intercommunautaires de la RDC, CNJIC-RDC. Dans une déclaration signée hier mercredi ici à Kinshasa, cette ONG réagit à l'attaque mardi à la tombée de la nuit d'un convoi de casques bleus au poste de contrôle de Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo. Benjamin Mushanganya, président national de la CNJIC-RDC, est au micro de Radio Okapi.
Le bilan de ces actes fait état des deux véhicules de la MONUSCO incendiés. La CNJIC RDC condamne avec la dernière énergie cet acte intolérable et appelle toutes les communautés du Nord Kivu à la retenue et à la tranquillité. Ne joue pas donc le jeu de l'ennemi à s'attaquer aux éléments de la MONUSCO. La CNJIC RDC demande ainsi l'implication urgente des autorités provinciales pour qu'une enquête soit vite diligentée afin d'identifier leurs auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. La CNJIC rappelle aux uns et aux autres que l'ennemi n'est pas la MONUSCO. Avec l'accompagnement de tout le monde, nous sommes convaincus, ça a témoignement, que l'ennemi sera neutralisé. Restons tous mobilisés derrière nos FRDC et la MONUSCO pour gagner la guerre, nous imposer par le Rwanda.
Rappelons que mardi soir vers 21h locale, les casques bleus qui provenaient de Rumangabo, territoire de Rutshuru, pour Goma, ont été caillassés par un groupe de manifestants spontanés. Deux véhicules de la mission ont été calcinés et deux ingénieurs bangladais blessés. De l'autre côté, au sud Kivu, les médecins ont organisé une marche dans les rues de Bukavu ce jeudi en guise de compassion à leurs collègues calcinés à l'intérieur de l'hôpital de Maboya à Beni la semaine dernière. Par la même occasion, le médecin du Sud Kivu dénonce les kidnappings suivis des tortures d'un autre collègue le 22 octobre dernier dans la zone de santé de Fizi par un groupe armé non autrement identifié. Face à toutes ces menaces, le médecin demande aux autorités de leur garantir la sécurité afin de soigner le malade dans la quiétude. Docteur Alice Mouadawa Zawadi, présidente de l'Ordre des médecins du Sud Kivu, est au micro de Jean Kassami.
La motivation, c'est la tuerie de la consoeur de Beni il y a deux semaines au CH Maboya. On veut juste dénoncer notre désolation à l'insécurité qui ne s'est pas cessée dans notre pays en général et au Sud Kivu, le Grand Kivu en particulier. Il y a un confrère qui était kidnappé à Fizi, torturé. Voilà que nous voulons hausser la voix par cette marche pour réclamer la sécurité dans l'ensemble du pays, en particulier dans le Grand Kivu. Quand on dit Grand Kivu, c'est-à-dire Nord, Sud, Maniema et Tanganyika n'est pas aussi éloigné. Les marches nous ont déjà atteints. Nous travaillons avec le cœur. On ne sait pas laisser les structures sanitaires sans soignants. Un médecin ne peut pas faire ça. Après la marche, nous allons regagner nos postes respectifs, quand bien même nos autorités ne sont pas en train de se rendre compte du sacrifice de médecins. Nous, nous y allons avec le cœur et la compassion à notre communauté qui est malade de surcroît.
Autre nouvelle de la province du Maniema, la pluie qui s'est abattue l'après-midi de mardi jusqu'aux premières heures d'hier mercredi, accompagnée d'un vent violent, a causé d'énormes dégâts matériels et humains dans les trois communes de la ville de Kindu. Des sources sur place parlent déjà d'au moins 4 personnes mortes, foudroyées et des blessés, dont certains internés dans les structures sanitaires de la place. Florence Kizalunga, reportage.
Dans la commune de Mikelenge, par exemple, jusqu'au soir de mercredi 10 novembre, la société civile communale parle de plus de 600 ménages qui ont perdu leur toiture, mire et autres biens de valeur. À cela s'ajoutent les blessés, comme explique Yalunda Rabou, le président de la société civile de Mikelenge.
Chez nous, dans la commune de Mikelenge, suite à cette forte pluie que vous avez attendue hier là, il y avait trop de catastrophes. Vraiment, l'ouragan a emporté plusieurs toitures des maisons des différents quartiers blocs de la commune de Mikelenge. Le bilan provisoire de 683 ménages. On a identifié l'unique école d'Institut Bissoga que l'ouragan a emporté la toiture en général. Vraiment, on ne sait pas si les élèves vont étudier durant ces derniers temps. Il y a une femme qui a perdu sa vie, il y a 3 enfants, il y a encore 4 blessés, dont 2 femmes, un homme et un enfant. Les victimes sont sous manguiers et peut-être vous allez trouver, madame, il y a 3-4 maisons emportées. Quelqu'un n'a pas un voisin à qui peut se cocher. C'est pourquoi je vous dis, ils sont sous soleil comme ça. Vraiment, nous demandons même aux partenaires locaux, nationaux, internationaux, de bonnes volontés peuvent assister ces gens tout à fait cessantes.
Dans la commune d'Alungouli, Mikelenge et Kekasuku, les sinistrés sont dehors sans aucune assistance. D'où cet appel à l'intervention urgente de tout le monde. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Congo central, inhumation collective hier mercredi de 23 indigents abandonnés durant plusieurs mois à la morgue d'hôpital général de référence de Sonankulu du territoire de Mbanzangungu. Au Congo central, ces obsèques ont été prises en charge par le député provincial Ndinga Nizetu. Selon cet élu de Mbanzangungu, l'objectif de son geste est de désengorger cette morgue qui était saturée en vue de prévenir les odeurs susceptibles de polluer l'environnement, ainsi préserver la santé de ceux qui y travaillent et de la population qui la fréquente tous les jours. Nana Plush Mambou s'y est rendue sur place. Voici son reportage.
Parmi ces 23 corps, 20 sont ceux des prisonniers et 3 autres sont des indigents. Leurs cadavres ont été abandonnés par leurs proches, a affirmé le représentant de l'administrateur du territoire, Roger Luzayamo, présent à cette cérémonie. Avant le retrait de ces corps, la morgue de Mbanzangungu était au-delà de sa capacité initiale. Plus de 100 dépouilles étaient entassées dans une trentaine de casiers mortuaires. L'élu de Mbanzangungu, le député provincial Santé Nzinga, a pris en charge l'achat des 23 cercueils, le fosse et le transport des dépouilles mortelles de la morgue jusqu'au cimetière. Il justifie son geste.
C'est une situation qui est assez difficile, au fait, de constater qu'à la morgue de Tsonankulu, avec la petite capacité que la morgue a, qu'on soit au-delà même de la capacité tolérable, au fait. Donc c'est ça qui a motivé nous, les jeunes de Mazangungu, pour pouvoir s'organiser et se prendre en charge pour libérer de la place au niveau de la morgue, pour enterrer dignement les personnes qui sont décédées et ainsi faire de la place pour que les autres qui sont là soient également conservés dignement.
Ce geste est salué par l'autorité locale et les médecins directeurs de l'hôpital général d'Ntsonankulu. Ces derniers ont affirmé que la saturation que connaît cette morgue entame parfois le fonctionnement du frigo, facteur entraînant la décomposition des cadavres. Matadi, Nana Plirich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un accord de paix pour une cessation des hostilités en Éthiopie a été signé ce mercredi à Pretoria en Afrique du Sud entre le gouvernement fédéral et les autorités du Tigré. Cet accord a été obtenu après une semaine d'âpres négociations sous l'égide de l'Union africaine. Il reste aujourd'hui à le mettre en œuvre.
L'invité.
Au Kassa Oriental, clôture ce mercredi en Mbujimayi du forum sur les droits des communautés liées à l'exploitation minière. Ces travaux sont organisés pendant 2 jours par le Centre d'études et de formation populaire avec l'appui de NED. Une quarantaine de personnes parmi lesquelles les acteurs étatiques, ceux des organisations de la société civile venus des 5 territoires que compte la province du Kassa Oriental ont participé à ce forum. Fernand Mbakilai, directeur de ce centre, s'entretient ici avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour. Monsieur Fernand Mbakilai, le CEFOP a organisé un forum provincial sur les droits des communautés. Quels sont ces droits?
Oui, merci beaucoup de la question. Ces droits, ce sont les droits des deuxième génération. En ce qui nous concerne, sur base des codes miniers, nous avons 3 droits en ce qui concerne les communautés locales. Et nous avons la redevance minière, c'est un droit des communautés locales. Nous avons aussi la dotation de 0,3% des chiffres d'affaires minimum. Et aussi, nous avons les droits des cahiers des charges. Ce sont les 3-là qui doivent revenir à la communauté locale. C'est-à-dire, bref, ce sont les droits de la deuxième génération. Donc, quand les chefs des fonctionnaires des ETD perçoivent cet argent, ils doivent construire les infrastructures des bases. Soit une école, soit un dispensaire, soit une maternité. Ce sont là les droits qui sont reconnus à la communauté des bases, à la communauté locale.
Les droits liés à l'exploitation des ressources naturelles sont-ils différents? Différent des droits humains.
Non, c'est pas différent des droits humains. C'est la même chose. Là, nous avons les 3 générations. Alors, ces droits-là, liés à l'exploitation des ressources locales, vont tout droit à la deuxième génération. Ce sont les droits socio-économiques et culturels. Et là, c'est l'État qui doit construire, qui doit subvenir aux besoins des communautés, créer les emplois, construire les écoles, les dispensaires, maternités, pourquoi pas les routes.
Que peuvent faire les sociétés minières pour vivre en harmonie avec les communautés locales?
En tout cas, merci de la question. Pour vivre en harmonie avec la communauté locale, les sociétés doivent respecter la loi. Donner la redevance, donner les 0,3% des chiffres d'affaires minimum, ça peut être même plus. Et doivent aussi signer le cahier des charges. Ce cahier des charges est signé entre la société ainsi que la communauté locale. Donc, c'est ça, le respect de ces 3 droits reconnus en faveur des communautés locales. Alors là, la société. Mais n'empêche, il y a aussi la communauté locale a aussi ses devoirs face à la société. Donc, la communauté locale doit respecter les biens de la société. C'est pas question d'aller piller. Si vous pillez, c'est-à-dire, c'est vous qui allez payer. C'est la communauté qui doit payer. C'est vice-versa.
Les 3 dispositions que vous avez citées tantôt, est-ce que nous pouvons dire que ce sont les grandes lignes de la nouvelle législation minière en RDC?
Oui. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, les innovations du code minier de 2018. Alors, c'est-à-dire, vous allez voir que dans ces innovations, on donne beaucoup d'avantages à la communauté locale. Donc, la communauté locale, vous savez, elle a droit de 15% des redevances dans les 100%. Et puis, 0,3% des chiffres d'affaires. Imaginez-vous si la société a à 5 millions de capital de chiffre d'affaires, c'est-à-dire on calcule 0,3% et on lui donne.
Quel est l'état des lieux, dressez-vous, des violations des droits de l'homme liées à l'exploitation des ressources minières au Kasaï oriental?
Au Kasaï oriental, l'état des lieux, c'est vraiment alarmant. Et sur les trois droits-là, il n'y a qu'une seule société qui a respecté et qui continue à respecter un seul droit, la redevance. Les deux autres ici, aucune société ne respecte. Même pas les cahiers des charges, même pas les 0,3 jusque-là. Alors, c'est pour vous dire que la société civile doit aussi beaucoup travailler et les dynamiques communautaires doivent beaucoup travailler dans les plaidoyers pour que les sociétés continuent ou commencent à respecter tous les droits qui sont reconnus pour les communautés locales.
Quelle est la seule société?
Nous avons la SACIM qui est dans le territoire de Miabi, qui a déjà commencé à donner les redevances dans les ETD et nous avons aussi certaines réalisations pour les ETD et ça continue, l'argent est viré chaque mois dans leur compte.
Est-ce que c'est bien calculé?
Oui, c'est bien calculé. Et vous savez, il y a les communautés qui sont affectées directement par les projets. Là, ils ont quand même un grand pourcentage. Et les sociétés qui ne sont pas affectées directement, là, ils ont moins de pourcentages dans cette redevance. C'est quand même logique.
Quel mécanisme pouvons-nous mettre en place pour réduire ou éradiquer les cas de violation des droits de l'homme liés à l'exploitation des ressources?
Les mécanismes sont si simples. Le 1, nous avons formé, informé les communautés locales à connaître leurs droits dénoncés, ils les revendiquent. Et le dernier mécanisme, c'est le plaidoyer.
Monsieur Fernand Mbakilayi, merci.
C'est moi qui vous remercie, ma journaliste.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Blaise Chindani et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci aussi à vous pour nous avoir suivis.